Et ce journal est présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'ouvrir la voie à une assistance au suicide, l'exécutif veut donner une forte impulsion aux soins palliatifs, mais son plan suscite des doutes, nous le verrons avec Cécile de Kervas-Doué. Oui à l'accueil des migrants, non à l'avortement, non à la criminalisation des homosexuels, même si leurs actes sont, je cite, « désordonnés ». Le Vatican fait la synthèse des positions de l'Église sur les sujets de société. Nous y reviendrons avec notre correspondant Bruno Duvic. Les relations entre la France et le Rwanda sont bonnes, déclare Paul Kagame. Le président rwandais ne tient pas rigueur à l'Élysée de ses cafouillages de communication, nous dira Paul Lorgerie. Comment rendre le numérique responsable? Un exemple dans la chronique Demain l'écho, avec une innovation permettant de réduire l'empreinte écologique des vidéos diffusées en streaming. Avant la présentation du projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres mercredi, l'exécutif précise son plan sur les soins palliatifs. Difficile en effet de débattre sur le suicide assisté si les efforts ne sont pas faits au préalable pour améliorer l'accompagnement des personnes malades en grande souffrance. Or, la France a du retard à combler. Elle figure actuellement à la 15e place du classement de l'OCDE. La ministre de la Santé a fait des annonces dès samedi. Dans un entretien accordé au Monde, Catherine Vautrin a annoncé un effort financier d'1,1 milliard d'euros d'ici 10 ans. Et elle a apporté des précisions sur ce plan aujourd'hui. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
L'ambition affichée est forte, Cécile.
Oui, car chaque année en France, 190 000 personnes sont prises en charge en soins palliatifs. Et c'est moitié moins que nécessaire puisqu'une personne sur deux n'a accès à aucun dispositif de ce type. Et pour les enfants, c'est encore pire. Un tiers seulement d'enfants sont pris en charge. L'ambition du gouvernement est donc de répondre à ces besoins qui vont aller croissant puisqu'avec le vieillissement de la population, chaque année, pendant 10 ans, c'est 250 000 personnes supplémentaires qui seront à prendre en charge en soins palliatifs. Alors, ce plan propose quatre objectifs. D'abord, la mise en place d'unités en soins palliatifs dans tous les départements. Aujourd'hui, 20 départements sont dépourvus. Ils en auront un chacun et d'ici 2025, promet le gouvernement. Ensuite, le gouvernement promet aussi de donner des renforts pour les soins palliatifs des situations dites difficiles, notamment celles des enfants ou celles des EHPAD. Il prévoit donc de développer des soins à domicile et des soins palliatifs mobiles. Dès 2024, 15 équipes mobiles supplémentaires seront donc créées à travers toute la France pour intervenir spécifiquement dans les EHPAD. Et l'objectif est d'en créer 100 d'ici 2034. Ce plan prévoit aussi de renforcer la prise en charge des douleurs chroniques en mettant en place des soins palliatifs dès le diagnostic, élargissant de ce fait le soin palliatif à du long terme. Il propose la création de structures hybrides. Dès 2026, une centaine de maisons d'accompagnement seront donc créées avec un financement pérenne. Enfin, il promet d'installer des astreintes, notamment des médecins spécialisés en soins palliatifs à domicile et dans les EHPAD.
Pour mettre en place ce qu'il appelle une culture palliative, Cécile, le gouvernement annonce donc débloquer 1,1 milliard d'euros pour la décennie à venir, mais ça n'est pas qu'une question d'argent.
Mais non, c'est surtout une question de ressources humaines, disent les professionnels du secteur, puisqu'un rapport d'information sur les soins palliatifs pour le Sénat avait déjà compté, c'était en 2020, que 30% des postes en soins palliatifs étaient non pourvus et qu'il faudrait former 450 médecins d'ici l'année prochaine, 2025, donc rien que pour remplacer les départs à la retraite. D'où l'accent mis dans ce plan sur la formation et notamment avec l'idée de créer une filière en soins palliatifs, car aujourd'hui, la spécialité soins palliatifs n'existe pas. Il n'y a en plus que 5 titulaires en France pour former les médecins. Il faut donc former des formateurs de formateurs pour pouvoir former des médecins. Or, le soin palliatif est pluridisciplinaire, donc cela ne se fera pas en quelques mois, mais plutôt en quelques années, vous l'aurez compris. Il y a le facteur argent, mais le facteur temps est sans doute le plus important.
Cécile de Kervas-Doué. Après une série d'agressions, dont une mortelle visant des adolescents, le gouvernement dit vouloir agir dès les premiers signes de violence chez les jeunes. Et la porte-parole, Prisca Thévenot, a évoqué la mise en place de conseils disciplinaires à l'école primaire. Des mesures de ce type sont déjà prévues, rétorque le SNUIPPFSU, syndicat des enseignants du primaire, qui juge plus nécessaire d'accompagner les enfants en difficulté et regrette que 900 postes de psychologues scolaires ne soient pas pourvus. La ministre de l'Éducation a, elle, évoqué une autre piste hier sur France Inter. Quelques jours après le passage à tabac d'une collégienne à Montpellier, victime de harcèlement et de menaces sur les réseaux sociaux, Nicole Belloubet a suggéré que les smartphones soient déposés à l'entrée des collèges, ce qui obligerait les collégiens dès la 6e à faire une pause numérique. Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN-UNSA, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, une telle mesure pourrait, selon lui, limiter le harcèlement, mais pas l'éradiquer.
Le problème du téléphone et des réseaux sociaux, c'est qu'ils le récupéreront de toute façon en sortant et qu'il y aura toujours une hyper-utilisation du téléphone portable, le message se diffuse très vite. Donc oui, on peut peut-être limiter les travers de harcèlement. Et effectivement, on aura peut-être toujours un élève qui sortira son portable et qui ira l'utiliser aux toilettes ou dans un coin caché de la cour. Enfin, il faut aussi qu'on comprenne bien que en gros, on a à peu près un adulte pour une dizaine d'élèves globalement. Donc, il faut aussi se rendre compte des vraies réalités du terrain d'un établissement scolaire. Il faudra aussi pouvoir se poser les questions de la sécurisation des téléphones portables, de la perte, de la casse. Enfin, il y a quand même de véritables questions à se poser. Peut-être même prévoir des casiers qui soient des casiers sécurisés avec accès. Je vous laisse imaginer un petit peu et le coût pour les collectivités territoriales et les difficultés d'organisation. Mais il va vraiment falloir qu'on réfléchisse tous ensemble sur le sujet.
Olivier Beaufrère du SNPDEN UNSA répondait à Talita Thierrot. Ultime journée de discussion pour les partenaires sociaux à propos du pacte de vie au travail et les échanges pourraient se poursuivre tard dans la nuit. Dans ce texte en cours de négociation, un volet évoque le compte épargne temps universel. Le MEDEF semble pour le moment opposé à sa création, mais ça n'est pas le cas de toutes les organisations patronales. Jean-Christophe Repond, vice-président de l'UDEP, qui regroupe 3,7 millions de petites et très petites entreprises, a ses propres propositions sur les reconversions et sur le compte épargne temps universel.
Nous avons, après réflexion au sein des professions que l'on représente, regardé comment on pouvait aussi rendre de l'attractivité à nos entreprises qui n'ont pas de CET. Hein. Et donc le CETU qui, sous l'écriture que l'on a commencé à travailler, protège la complexité du dispositif comme on l'avait entendu au tout début et aussi est à coût constant pour l'entreprise, nous permettrait de pouvoir donner aussi à de l'entreprise de petite taille, à la TPE, une attractivité sur le fait que dans une vision d'un travail moderne, d'une approche un peu différenciée, sans contrainte pour l'entreprise de gestion, en le donnant à la Caisse des dépôts et consignations, ça nous permettrait de pouvoir aussi dire qu'il fait bon vivre dans nos entreprises artisanales ou des professions libérales.
Donc d'attirer, parce que vous êtes en manque de main-d'œuvre, c'est ça?
Majoritairement, pour les structures que l'on représente, qu'elles soient artisanales ou libérales, on a besoin d'avoir de l'attractivité. Et ce qu'on essaie de dire par ce sens-là, c'est de dire que la petite entreprise à taille humaine, qui n'a pas de N+4, qui connaît bien l'ensemble de ses collaborateurs, peut aussi donner une vision. Et c'est une réflexion qu'on porte dans l'ensemble de nos fédérations et qui peut faire dire en fait à la jeunesse. Quand on essaye de trouver un sens à son travail, une structure de petite taille, c'est typiquement ce qu'on peut apporter en plus donc du CETU, on peut donner du sens à son travail au quotidien.
Jean-Christophe Repond de l'UDP faisait entendre sa différence au micro de Wafia Kenich. Le numérique responsable, c'est le thème de la chronique Demain l'écho de ce lundi. En 2020, le numérique représentait 2,5% de l'empreinte carbone annuelle de la France et 10% de sa consommation électrique annuelle. Les usagers sont donc appelés à la sobriété et les fabricants à l'éco-conception. Annabelle Grelier s'est penchée sur une technologie française de streaming vidéo qui divise par deux la consommation d'énergie et de ressources. Elle a d'ailleurs été retenue par France Télévisions pour diffuser les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Dans une société de plus en plus connectée, avec une croissance des usages Internet prévue pour être multipliée par 6 d'ici 2030, toutes les entreprises sont aujourd'hui fortement incitées à trouver des solutions pour rendre leur offre de services numériques plus sobre. Daniel Négru, docteur en informatique et cofondateur de la jeune pousse Quantique, s'adresse en particulier aux diffuseurs de vidéos en streaming. Gros consommateurs de bandes passantes, d'énergie et d'infrastructures.
Toutes les technologies de streaming sont fondées sur un seul principe actuellement, c'est le déploiement de serveurs. C'est-à-dire que plus il y a de spectateurs, plus on déploie des serveurs et on les déploie partout. Donc on déploie des gros data centers dans les lieux les plus peuplés, je dirais, mais pas que. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en déploie aussi sous la mer. On déploie aussi des serveurs en Arctique aujourd'hui pour le refroidissement. Mais la plupart du temps, ça fonctionne assez bien, sauf que ces serveurs, ils sont utilisés à uniquement 40%, 50% de leur capacité. Pourquoi ? Pour faire face aux pics d'audience. Pour que quand il y a beaucoup de monde qui va regarder, tout le monde puisse voir les flux. Avec Quantique, plus il y a de spectateurs et moins on en a besoin de serveurs.
Pour y parvenir, il a mis au point avec son équipe un algorithme sur le principe du pair à pair qui fait de chaque utilisateur un relais de proximité.
C'est pas du partage de connexion, hein. C'est un algorithme à base de code informatique qui fonctionne très simplement, je dirais. Donc il met en relation de manière intelligente chaque spectateur pour optimiser au maximum l'énergie qui doit être utilisée pour le streaming au global. Notre technologie s'intègre à l'intérieur du player vidéo du diffuseur. C'est eux qui le mettent dans leur appli, dans leur site web, et qui derrière permet une rediffusion instantanée hein, du flux vers les autres spectateurs. Mais ça, c'est totalement transparent pour vous, vous en rendez pas compte, vous pouvez pas le voir.
La seule chose que l'utilisateur pourra voir, c'est la réduction de son empreinte écologique qui s'affichera en temps réel sur son écran. Une information importante pour Quantiq, qui a fondé le cœur de sa technologie sur une approche sobre et l'optimisation des équipements existants.
On a comparé aujourd'hui, si un serveur envoyait un spectateur, combien ça coûte en énergie? On est entre 3 et 20 fois moins d'énergie si c'est un spectateur qui envoie un autre, plutôt que si c'est un serveur.
Cette technologie, qui a nécessité 3 ans de recherche, est aujourd'hui fin prête pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
En été dernier, j'avais dit à mes équipes, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'être déployé pour les JO. Pour montrer que cette solution éco-responsable soit à l'ordre du jour en France via une technologie française pour l'événement le plus important de l'année.
Retenu par France Télévisions pour un contrat de 4 ans qui débutera par la diffusion des épreuves sur son application mobile et son site internet, la technologie de Quantiq permettra d'éviter les crashs lors des pics de fréquentation, d'économiser des coûts d'exploitation et de réduire l'empreinte écologique des jeux. La promesse peut paraître mirobolante, mais la technologie est déjà éprouvée. En témoigne l'un de ses premiers clients, David Gretter, directeur général de ViewSurf. Cette petite entreprise bordelaise, qui déploie des caméras et diffuse plus de 10 millions de vidéos par mois, s'est fait connaître, bien malgré elle, en 2019.
Quand Notre-Dame a brûlé, on avait une caméra sur Notre-Dame. L'ensemble de nos serveurs ont été saturés. Les émissions et les captations se sont arrêtées en fait d'un coup. Il est très dur à ce moment-là de réagir. On est en plus une petite société. Mettre en œuvre des infrastructures qui répondent à ces pics toute l'année, ça coûte très cher. Pour pas grand-chose, parce qu'on va l'utiliser 15% du temps. Tandis qu'une solution qui permet de répondre à l'instant T sans avoir de surfacturation sur la solution, pour nous c'était assez incroyable.
Engagé sur la voie du numérique responsable, Quantiq, avec sa solution d'optimisation technologique, a de quoi séduire nombre de gros diffuseurs en France et à l'étranger. L'équipe de 8 salariés prévoit de multiplier par 5 son chiffre d'affaires en 2024.
Annabelle Grelier, comme chaque semaine, la chronique Demain l'écho est disponible sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Le document était en préparation depuis 5 ans. Le Vatican publie aujourd'hui Dignité infinie, une déclaration qui fait la synthèse de la position de l'Église sur les grands sujets de société et qui fait écho à l'actualité. Il y est question des migrants, des travailleurs pauvres, de l'avortement, de la GPA ou encore du numérique. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture à Rome. Alors dans ce texte, un fil rouge, Bruno, la dignité humaine.
Oui, dignité humaine qui est infinie parce que l'homme et la femme sont créés par Dieu. Tout vient de là, de l'accueil des migrants à la lutte contre la pauvreté en passant par le refus de l'avortement. Cette déclaration, c'est le thème exact dans l'Église, s'arrête aussi sur des sujets plus récemment d'actualité. Le refus de la GPA, l'enfant devient un objet, c'est une atteinte à la dignité, non à la théorie du genre, c'est l'expression employée, elle aboutit à nier les différences sexuelles. Au nom du respect du corps, le Vatican s'oppose à toute opération de changement de sexe. En résumé, l'enseignement de l'Église est un tout, on ne peut pas picorer selon que l'on est conservateur ou progressiste. Et puis à propos de l'avortement, le cardinal Fernandez, qui a rédigé ce texte, a été interrogé sur la France, qui vient d'inscrire ce droit dans sa constitution. Il répond ceci.
Quand un enfant se développe dans le ventre de sa mère, cela peut être une femme en devenir. Pour nous, entre les droits de ces deux femmes, le droit à la vie est le plus important.
Tra queste due donne.
Et en marge de la présentation de ce texte, le cardinal Fernandez, qui est chargé de la doctrine au Vatican, est revenu, Bruno, sur la bénédiction des couples homosexuels.
Oui, pour l'assumer pleinement, si ses positions peuvent être fermes sur les questions de société, l'Église accueille tout le monde, tutti, tutti, répète fréquemment le pape. À ceux qui refusent d'appliquer la consigne, le cardinal rappelle que tous les prêtres et évêques ont juré fidélité au pape, et en signe de soutien aux évêques qui disent ne pas pouvoir appliquer la mesure dans des pays où l'homosexualité est réprimée par la loi, il appelle à la dépénalisation générale de l'homosexualité. Enfin, un journaliste qui lui fait valoir que le catéchisme de l'Église condamne toujours l'homosexualité. Il répond, pour l'Église, les relations hommes-femmes sont ce qu'il y a de plus beau parce qu'elles donnent la vie, ce qui n'est pas le cas des relations homo. De là à les qualifier d'intrinsèquement désordonnées, comme dans le catéchisme.
C'est vrai qu'on pourrait trouver d'autres paroles plus adaptées à ce mystère.
Et le cardinal ne précise pas à quelle échéance le texte pourrait être remanié.
Merci Bruno Duvic, vous étiez en direct de Rome. Aux États-Unis, l'interdiction de l'avortement, cheval de bataille des Républicains, s'est révélée très impopulaire. Et le mouvement conservateur l'a payé dans plusieurs scrutins récents. Donald Trump semble avoir pris conscience du risque, d'où cette dernière déclaration du probable candidat républicain à la présidentielle de novembre. Dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump semble rejeter une interdiction de l'IVG au niveau national, Sébastien Paour.
Trump ne dit pas dans cette vidéo à partir de combien de semaines de grossesse l'avortement devrait être interdit. C'est à chaque État de décider selon lui. Mon point de vue, c'est que maintenant que nous avons l'avortement là où tout le monde le voulait d'un point de vue juridique, ce sont les États qui décideront par un vote ou par une loi, ou peut-être les deux, et ce qu'ils décideront devra faire loi, la loi de l'État. Il se vante d'être celui qui a permis la fin de l'IVG au niveau national grâce à ses nominations à la Cour suprême. Je suis probablement la personne responsable de la fin d'une chose que tous les juristes des deux camps voulaient et en fait exigeaient, la fin de l'arrêt Roe contre
Wade.
Et il se prononce pour trois exceptions. Je suis très favorable aux exceptions en cas de viol, d'inceste et quand la vie de la mère est en jeu. Trump a souvent varié sur l'avortement et il sait qu'il peut lui coûter sa réélection en novembre. Les Républicains ont perdu tous les scrutins où il était question d'IVG depuis la décision de la Cour suprême il y a presque deux ans, même dans les États conservateurs comme le Kansas.
Sébastien Paour, à Washington. Des inondations historiques touchent les régions russes de l'Oural et en Sibérie occidentale. Ces inondations ont été engendrées par de fortes pluies, associées à une hausse des températures, la fonte accrue des neiges et la débâcle des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves. Elles ont entraîné aujourd'hui des manifestations d'habitants dans la ville d'Orsk, la plus touchée par ce désastre d'une ampleur qui n'a pas été vue depuis des décennies. Alors que le Rwanda est entré hier dans les commémorations du génocide des Tutsis en 1994, on attendait la diffusion d'un message d'Emmanuel Macron au peuple rwandais annonçant que la France ainsi que ses alliés auraient pu stopper le massacre. Finalement, c'est une déclaration beaucoup plus nuancée qui a été diffusée hier à l'UNESCO devant l'ambassadeur rwandais en France. Erreur de communication ou ligne politique peu claire, quoi qu'il en soit, le président rwandais Paul Kagame a joué ce matin la carte de l'apaisement, Paul Lorgerie.
Allez lui demander vous-même quand vous en aurez l'opportunité. C'est ainsi que le chef d'État rwandais répond lorsqu'on lui demande son avis sur ce cafouillage autour de la communication de l'Élysée.
J'en ai entendu parler. La contradiction, le sentiment, ce qui avait été écrit. Cela s'est passé, mais je préfère me concentrer sur les bonnes choses qui peuvent arriver.
Lors d'une conférence de presse, Paul Kagame a pour autant assuré que les relations entre le Rwanda et la France sont bonnes, malgré un passé sombre. En effet, en 2021, un rapport de 1200 page établissait, je cite, « la responsabilité accablante pour la France tout en soulignant l'absence de complicité dans le génocide de 1994 ».
Mon sentiment est que nous avons fait des progrès, mais il y a toujours des gens en France qui sont retenus par ce qui s'est passé dans l'histoire et qui vivent toujours dans le passé politiquement.
Dimanche, le président rwandais a également pointé l'abandon de la communauté internationale en 1994, tranchant qu'elle avait à l'époque trahi le Rwanda soit par mépris, soit par lâcheté.
Paul Lorgerie, notre envoyé spécial à Kigali, étant le temps du débat à partir de 18h20, Emmanuel et Laurentin et ses invités mettront en évidence ce que la recherche nous a appris sur le génocide. Après le Kenya et le Rwanda dans l'Est de l'Afrique, la première tournée africaine de Stéphane Séjourné s'est conclue par une visite en Côte d'Ivoire. Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu à Abidjan, une mission simple sur le papier car les deux pays ont une longue histoire commune, mais une mission également délicate, Nathanaël Charbonnier.
Ne pas commettre les mêmes erreurs que celles commises au Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger. C'était aussi l'ambition de ce voyage. L'idée est de montrer que le logiciel tricolore a changé en Afrique et que cela s'applique à des nouveaux amis comme les Kenyans, mais aussi aux plus anciens comme la Côte d'Ivoire. Stéphane Séjourné a donc parlé aux jeunes, à la société civile, avec un objectif, travailler sur des projets souhaités par les Ivoiriens, d'où un programme sur place pour le ministre ponctué de rencontres avec des étudiants ou encore avec des entrepreneurs. Mais voilà, même avec un nouveau logiciel, on ne peut s'empêcher de voir si l'ancien fonctionne toujours. Ne pas oublier par exemple que c'est la France qui construit le métro d'Abidjan ou encore le programme d'investissement de notre pays via l'Agence française de développement qui approche les 4,7 milliards d'euros pour la période 2021-2025. Stéphane Séjourné a donc rencontré durant cette journée son homologue, mais également le président Ouattara. Parmi les sujets de discussion, celui de l'avenir de la base militaire française, basée en Côte d'Ivoire, qui accueille encore 500 personnes, ou encore celui du terrorisme qui touche les frontières nord du pays.
Nathanaël Charbonnier, la météo, le temps sera souvent instable demain avec des averses parfois orageuses. 7 départements seront placés en vigilance orange vague submersion du Finistère au Pas-de-Calais. L'après-midi, le soleil s'imposera tout de même autour du golfe du Lion. Il fera entre 5 et 15 degrés au petit matin, 11 à 15 au meilleur de la journée sur la plupart des régions, jusqu'à 16 à 22 autour du golfe du Lion et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.